Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis, votre seule émission quotidienne qui vous parle de jeux de société à la radio. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Et comme tous les chroniqueurs et chroniqueuses de la semaine, bien entendu, elle nous donnera ses trois coups de cœur du Festival International des Jeux de Cannes. Et puis moi, comme ce midi, j'ai envie de dire, on va manger. Hein ? Alors, au menu aujourd'hui, c'est Tapas. Oui, Tapas, un petit jeu abstrait. Nouveau jeu de joueurs de chez Funforge, un jeu de Ludovic Lépine, illustré par Philippe Noura à partir de 10 ans. Alors, le but de ce jeu est de mettre le plus de vos tapas sur le plateau et d'éjecter celles de votre adversaire. Au niveau de la mise en place, vous posez entre vous deux le plateau tapas, comprenant 32 cases. Chaque joueur prend ses tapas. Il y a les jalapenos, les rouges, et les croquetas, les jaunes. Certains jetons de valeur 1 sont posés sur le plateau. C'est indiqué au niveau des emplacements. Voilà, c'est tout pour la mise en place. Vous êtes prêts à jouer. Mais alors, comment on joue ? Vous avez devant vous vos 10 jetons tapas, avec des valeurs allant de 1 à 3. À votre tour, vous allez placer l'un de vos tapas sur le plateau. Pour ce faire, il suffit de le faire entrer par l'un des côtés en poussant l'un des tapas de votre adversaire, de la ligne ou de la colonne, sachant que les autres tapas se déplacent en même temps. On ne peut pas pousser ses propres tapas, non. Si j'utilise un tapas de valeur 1, je pousse de 1 case celui de mon adversaire. Si c'est de valeur 2, je pousse de 2 cases. En poussant des tapas, y en a certains qui peuvent sortir du plateau. Et si c'est un tapas de mon adversaire qui tombe du plateau, je le récupère. En revanche, si c'est un de mes tapas qui sort, c'est mon adversaire qui le récupère, même si c'est moi qui l'ai poussé. Il fallait faire attention au niveau tactique. Alors en gros, vous récupérez la couleur adverse. N'oubliez pas que plusieurs tapas peuvent sortir en même temps. Quand vous avez joué tous les deux vos 10 tapas, chaque joueur compte la valeur des tapas adverses récupérés. Celui qui a le plus de points l'emporte tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Il existe deux variantes pour pimenter le jeu. La première, c'est la Red Mojo. Vous retournez le plateau, il y a des cases en plus pour le jeton Toast, Ketchup, Mayo, Wasabi, Addition et Serviette. Ces jetons, vous pouvez les pousser. Par contre, quand ils sortent du plateau, ils sont pour vous et vous donnent des points. Le jeton Toast, par exemple, rapporte 5 points. Le Ketchup rapporte 2 points, mais si vous avez en plus la Mayo, c'est 5 points. Et si vous avez aussi le Wasabi, c'est la victoire immédiate et on ne calcule même pas les tapas qui sont sortis. L'autre variante, c'est le plateau qui tourne, le Burning Head. Alors au début de votre tour, vous pivotez de 1 quart le plateau et vous ne pouvez jouer que du côté qui vous fait face. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez le faire pivoter de nouveau. Mais ça vous donne une contrainte. Alors ce que j'en pense, ce tapas, petit jeu abstrait dans la gamme de Donuts que j'avais beaucoup aimé. Même si j'aime beaucoup le salé, je crois que je préfère quand même le sucré et je préfère Donuts. Mais le jeu est sympa, les variantes sont plus intéressantes. Un petit conseil, n'utilisez pas trop rapidement vos jetons de valeur 3. À noter aussi une très belle édition avec des jetons en bois. Voilà, ça s'appelle Tapas et c'est sorti il y a quelques semaines chez Funforge et distribué par Asmodée. Allez, d'ici quelques instants, on se retrouve pour C'est Ludique avec Morgane. Et comme tous les vendredis, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Salut Morgane.
Salut.
Alors Morgane, aujourd'hui on va parler de tes soirées jeux, mais on va revenir aussi sur le Festival de Cannes, avec comme tous les chroniqueurs et chroniqueuses de la semaine qui ont donné leurs trois coups de cœur. On commence avec quoi, Morgane ? Tu veux commencer avec tes coups de cœur de Cannes ou par soirée jeux ? C'est toi qui
On va commencer par soirée jeux.
Ouais, voilà, tout est permis, tu fais ce que tu veux, allez, hop, c'est comme ça.
C'est le truc à l'envers.
Exactement, allez c'est parti alors, à quoi tu as joué ?
Du coup, on part sur une spéciale vieux jeu aujourd'hui. Vieux jeu, tout est relatif, tu verras.
D'accord, ok.
J'ai un peu triché. Pour la petite histoire, je suis dans une ludothèque. On essaye d'épurer un peu les jeux et de faire de la place. Donc du coup, on essaie des jeux qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Et la semaine dernière, ça a été une spéciale parce qu'on a joué qu'à des jeux qu'on ne connaissait pas et c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui.
D'accord.
On va commencer avec Metro. Metro, c'est un jeu de Dirk N. Ouais, Metro, qui est illustré par Franz Vovinkel et c'est sorti en 2000 chez Queen Games. Donc pour le coup, c'est un jeu qui a obtenu le Spiel des Jahres en 2000. Donc c'est pas non plus rien du tout. Tu vois, c'est quand même un jeu qui a été réputé. Et en fait, dans Metro, comme son nom l'indique, on va construire des lignes de métro parisiens en 1898. Sauf qu'on n'est pas les seuls à vouloir les construire et les autres, ils vont avoir à cœur de nous bloquer dans notre élan de construction. Donc on va tous poser nos wagons de métro tout autour du plateau. T'as un rebord Donc on va chacun poser nos métros dessus, c'est des débuts de lignes de métro. Et à chaque tour, on va poser une tuile avec des rails dessus sur le plateau central. Et en fait, toute l'essence du jeu, elle provient du fait que dès qu'une ligne de métro se termine parce qu'elle arrive, enfin, elle retourne sur les bords du plateau, le joueur qui est au début de cette ligne, il va scorer des points. Donc les scores, c'est facile à compter, hein, parce qu'on va scorer un point par tuile traversée par notre ligne de métro, et score qui sera doublé si on passe par une des quatre stations de métro centrale. Donc forcément, plus la ligne de métro, elle sera longue, et plus on va marquer des points. Mais les autres joueurs, bah, ils vont pas l'entendre de cette oreille, ils vont bien faire en sorte que tes lignes, elles, se finissent bien plus tôt que prévu, pour que t'aies le moins de points possible. Donc pour le coup, métro, ça m'a agréablement surprise par le côté simple et vraiment efficace. On a des sensations à la Tsuro. Je sais pas si t'avais joué à Tsuro qui était sorti chez Matago.
Ah oui, oui, ça me dit quelque chose, là. Le serpent, là.
Voilà. Enfin, l'espèce de dragon. Ouais, voilà. Et en fait, bah, on retrouve ces sensations-là, en fait, à poser les tuiles sur le plateau. En fait, on se prend rapidement au jeu d'optimiser au mieux nos tuiles pour pas que les autres joueurs nous bloquent trop rapidement en fermant nos lignes. Mais par contre, bah, on prend aussi plaisir à finir leurs lignes à eux, à faire des petites lignes de trois post-tuiles pour qu'ils n'aient pas beaucoup de points. Donc voilà, côté interaction, on est clairement dedans, ça, il n'y a pas de doute. On va même tenter d'anticiper un peu ce que vont faire les autres joueurs au fur et à mesure que les lignes se construisent. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, on récupère les tuiles au hasard dans la pioche. Donc ça peut être frustrant quand on n'a pas ce dont on a besoin, surtout vers la fin, pour créer nos belles lignes. Ouais. Autre possibilité, on peut en piocher une à l'aveugle, mais par contre, on est obligé de la jouer si on la récupère de cette façon-là. Tu vois, au début du tour, tu peux dire, j'ai pas ce que je veux, j'en pioche une, par contre, je suis obligé de la jouer.
D'accord.
C'est la seule que j'aurai le droit de jouer. On n'est pas non plus sur un jeu de stratégie, hein, ça va être clairement quasi mission impossible d'anticiper plusieurs tours d'affilée, tellement les tuiles posées par les autres joueurs, elles sont imprévisibles. En plus, on y a joué à 6, je crois, donc le temps que ça revienne à toi, t'avais le temps, de voir le truc arriver. Mais voilà, ça reste un jeu familial, ça peut être même joué avec des plus jeunes qui auraient par exemple un goût prononcé déjà pour les aventuriers du rail, parce que voilà, on retrouve vraiment le côté train. On reste sur un jeu de connexion, de pioche et de pose de tuiles, enfin, ça reste du classique, on n'est pas sur un énorme must-have, mais en y jouant, tu comprends pourquoi il a eu son prix, surtout pour un jeu qui a plus de 25 ans aujourd'hui.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, c'est efficace, il n'y a rien à dire.
Et niveau, donc on est sur un jeu allemand, et donc niveau illustration, ça donne quoi?
C'est allemand.
Voilà, ok, très bien.
Alors la boîte, ça va, elle a bien été faite par Queen Games, elle a été rééditée, donc nous on a l'ancienne boîte à la ludothèque.
D'accord.
Mais j'ai vu sur internet qu'elle avait été rééditée, qu'elle est quand même un peu plus jolie. Après, le matériel, c'est vraiment, tu sens que c'est allemand, quoi.
Enfin, oui,
le design, il est pas hyper poussé comme ça aurait pu être, bien travaillé, quoi.
Ouais. Donc ça le métro, on le retrouve toujours en boutique ou c'est des...
Alors je l'ai vu quand même disponible en ligne, alors pas partout,
ouais.
Mais la réédition est trouvable.
D'accord. Autre voilà. Jeu.
Autre après, il n'y a pas de texte sur les matériels.
Donc, ouais, oui, donc.
C'est toujours pareil, une version étrangère peut fonctionner.
Autre vieux jeu que tu as joué ici.
Autre vieux jeu, c'est Dubalet. Dubalet, c'est un jeu de Bruno Catala et Serge Lager qui est illustré par Stéphane Poinceau et c'est sorti chez Asmodée en 2006. Donc, juste avant, je t'ai parlé de Métro qui a eu le Spiel des Sierres en 2000.
Ouais.
Et Dubalet, il a eu l'As d'Or en 2007.
Ah ouais, bien.
Donc là aussi, un jeu primé.
Dubalet.
Oui, alors c'est un jeu en fait en format, en format livre.
Ah oui,
format, dedans, donc on est sur un jeu de mémoire et de réflexion, et en même temps sur une mécanique de course, parce qu'en fait on incarne une sorcière et on va chevaucher notre balai pour arriver la première sur la ligne d'arrivée, et pour ça on va devoir réaliser les bonnes formules magiques pour avancer grâce aux cartes qu'on a en main. Donc on a une boîte de jeu, donc sous forme de grimoire, qui va servir de piste à dés en même temps. Et en fait, y a un joueur qui va lancer des 9 dés. CD, ils affichent des symboles en noir et en orange dans la boîte. En fait, on va les lancer dans la boîte. Et les joueurs vont tous devoir tenter de les mémoriser pour réaliser la bonne formule magique avec leurs cartes. Donc en fait, on a des cartes qui représentent tous les symboles. Et il va falloir sortir les cartes qui correspondent aux symboles d'une seule des deux couleurs. Et surtout que ces symboles ne soient pas présents dans l'autre couleur, sinon ils s'annulent. Donc t'as un petit côté mémoire, mais en même temps, faut que tu regardes quand même ce qu'il y a autour. Quand un joueur pense avoir la bonne formule, il ferme le grimoire et du coup il empêche les autres joueurs de continuer à avoir les dés. Donc à ce moment-là, on devra trouver la bonne combinaison de cartes pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est la formule magique. Si tu mets 4 cartes, tu avanceras de 4 cases sur le plateau si elle est juste. Donc voilà, donc si la formule créée elle est bonne, c'est ok. Si en plus elle est parfaite, parce qu'elle est complète et qu'on a bien mis tous les symboles d'une couleur, on va avoir un bonus supplémentaire. Donc si c'est une formule orange, tu avances de 2 cases supplémentaires, et si c'est une formule noire, tu pioches une carte de magie noire qui va octroyer un petit bonus qui sera utilisé immédiatement ou plus tard. Par contre, celui qui est en tête de la course, et j'ai trouvé ça bien fait, celui qui est en tête de la course, il est un peu maudit, parce que lui, il peut pas prendre les avantages s'il fait une formule parfaite. Donc ça rééquilibre un peu quand tu es trop loin derrière. Ça te permet de rééquilibrer un peu le jeu. Et du coup, bah, on enchaîne les formules magiques jusqu'à ce qu'un joueur arrive sur la case d'arrivée. On a vraiment des règles très très simples. Hein. C'est jouable en famille, voire même avant. Voilà, on sait à quel point les enfants sont hyper forts
sympa,
en jeu de mémoire. Ouais, bah, en fait, t'as le côté vraiment mémoire, mais c'est un jeu qui m'a hyper déstabilisée au début. Parce que bah, dans le sens où en fait, je regardais les dés et je cherchais à sortir mes cartes en même temps.
Ah oui, d'accord.
Et c'était pas du tout le bon plan parce que bah, les autres ils mémorisaient les dés, ils fermaient les mémoires et moi je l'avais dans l'os parce que j'avais pas du tout regardé les autres dés. Mais voilà, après si ça ferme rapidement la boîte, bah voilà, t'as pas vraiment le temps de mémoriser. La phase d'observation, c'est vrai qu'elle peut être très rapide, donc bah, on n'a plus qu'à espérer d'avoir bien mémorisé pour pas que ça nous piège trop vite. Forcément, on va viser la couleur avec le plus de symboles pour avancer le plus possible sur la piste de course, mais c'est pas forcément toujours payant. Surtout si on cherche à faire la formule parfaite. Côté matériel, bah, c'est ingénieux parce qu'on a vraiment la boîte en grimoire qui se referme et qui permet de servir de piste à dés en même temps. Officiellement, on doit prononcer les formules magiques, t'as les petits mots sur les cartes. Mais en fait, comme les mots, ils ont pas vraiment de rapport avec le symbole, c'est un peu l'étape que tu zappes, tu zappes facilement. Mais voilà, ça se joue en famille, enfin voilà, pour moi c'est efficace en famille.
Donc du balai. Donc vous avez ressorti les vieux jeux à la ludothèque.
Ouais. On continue, j'en ai encore. On a Elixir. Elixir qui est plus connu, du coup. Donc, c'est vraiment pareil, un vieux jeu. Là, c'est sûrement un grand classique. Moi, j'avais jamais joué. C'est un jeu de Sylvie Barque, Frédéric Légoni et Jean-Charles Rodriguez qui est sorti en 93 chez Asmodée.
Ouais.
Donc, il y a eu plusieurs rééditions depuis, mais le jeu est bien de 93 à la base. Donc, dans ce jeu, bah, on incarne des apprentis sorciers. J'aurais peut-être dû faire un thème sorcier aussi.
Peut-être, mais on attendra Halloween dans ces cas-là.
Voilà. Et on va partir avec plusieurs cartes en main. Et ces cartes, en fait, on a soit des sortilèges, soit des ingrédients. Et le but principal du jeu, c'est de se débarrasser de tous ces sortilèges en premier. Du coup, pour lancer un sortilège, bah, il va falloir réussir à réunir tous les ingrédients qui sont nécessaires pour le faire. Et en fait, c'est des sorts qui vont mettre une belle ambiance autour de la table parce que bah, selon ce que tu vas réaliser, tu vas pouvoir obliger un joueur à t'appeler votre majesté tout le long de la partie. Il n'aura pas le choix, il devra taper
majesté.
Votre majesté.
Ah, d'accord.
Voilà, il va pouvoir te vouvoyer. Tu vas aussi pouvoir faire taire des joueurs. Pendant 5 minutes, ils n'auront pas le droit de parler. Donc voilà, c'est des actions en fait que les joueurs vont devoir faire tout au long de la partie. Et bien sûr, au moindre oubli, bah, le joueur qui l'a repéré, il va récupérer une carte ingrédient de la main de celui qui aurait dû le faire. Donc voilà, c'est vraiment un jeu voilà, qui te met une ambiance tout de suite. Il y a aussi des cartes qui sont complètement inutiles, donc on va chercher à les filer parce que c'est des objets pourris qui serviront à rien pour nos sortilèges. Mais voilà, l'essentiel du jeu, c'est vraiment de mettre l'ambiance avec ces cartes qui vont faire des actions complètement loufoques. Enfin, nous, on en a eu qui devaient s'envoyer des mots d'oiseaux pendant 5 minutes.
D'accord. Ah ouais,
donc,
sympa.
Voilà, c'est vraiment voilà, du petit... Alors, des mots d'oiseaux soft, hein, ça restait normal, mais voilà. Mais du coup, ça fonctionne bien. Il y a eu 3 extensions depuis, enfin, en tout, qui sont sorties. Pour le coup, ils annoncent 1 heure de partie.
D'accord.
Donc, pour un jeu d'ambiance, tu peux t'attendre à ce que ce soit assez long, mais c'est vrai qu'au début, tu dois vraiment lire toutes les cartes, tous les effets des cartes, donc ça te paraît un peu plus long, mais ça marche bien. C'est un petit jeu, alors je sais que pendant un moment il a été difficile à trouver, mais comme ils l'ont pas mal réédité, il est plus simple à trouver maintenant.
Eh ben, merci beaucoup Votre Majesté.
Un autre
vieux jeu ?
Ouais, j'ai un dernier vieux jeu, c'est là que j'ai triché. Ah. J'ai un peu honte, j'avoue, parce qu'en fait, quand je l'ai mis dans cette session, j'étais persuadée qu'il était plus ancien, mais du coup, en cherchant les infos, il est plus récent que je pensais, parce qu'il est sorti en 2016.
Ah oui, là, c'est plus si vieux, là.
Donc, il est un peu plus récent. Alors, au pire, on peut changer le thème vieux jeu en jeu à récompense, parce que bah, j'étais sorti Métro, Spiel des CRS, du Ballet As d'Or. Elixir avait aussi obtenu l'As d'Or, jeu de convivialité en 97.
Jeu de convivialité, d'accord.
Ouais, il y avait des catégories, j'ai découvert ça, c'était excellent.
Ah ouais?
Il y a plein de catégories qui existaient, ouais. Sur les As d'Or, il n'y avait pas jeu initié, expert, voilà. C'était vraiment, il y avait jeu de convivialité, jeu enfant, enfin voilà, t'avais plusieurs catégories, mais tu pouvais en avoir 8 ou 9. Hein.
D'accord.
J'ai découvert ça en même temps. Donc le Dodo Lido, du coup, que je vais parler maintenant, il fait partie des jeux recommandés au Spiel des Sierres en 2017. Donc on va dire que ça fonctionne. J'ai triché.
Ouais, allez, ça fonctionne, ça fonctionne.
Ça passe. Donc Dodo Lido, c'est un jeu de Jacques Zeymet qui est illustré par Rolf Vogt et c'est sorti chez Gigamic du coup en 2016. On est sur un jeu d'observation qui se joue vite, qui va remuer votre cerveau puisqu'en fait chaque joueur va partir avec une pioche de cartes face cachée. Ces cartes, elles représentent des animaux colorés et en fait le but c'est d'annoncer ce qui apparaît en majorité sur les cartes qui seront visibles au centre de la table quand on va poser une nouvelle carte. Donc on va avoir 3 piles de dés fausses et donc à chaque tour un joueur va révéler une carte de sa pioche, va la poser face visible sur une des 3 piles et là en fonction de ce qu'il voit il aura plusieurs possibilités, soit il y a une couleur ou un animal qui est majoritaire en deux ou trois exemplaires.
Ouais.
Et dans ce cas-là, il va annoncer l'animal ou la couleur concernée.
D'accord.
Soit il y a à la fois une majorité d'un type d'animal et d'une couleur, avec par exemple deux cartes chameau et deux cartes roses. Et dans ce cas, il va annoncer deux de Lido, donc le nom du jeu.
D'accord.
Soit il n'y a aucune majorité, mais il va devoir quand même l'annoncer en disant le mot rien. Donc il ne faudra pas qu'il oublie non plus de le dire. Dernière subtilité, c'est lorsqu'il y a des tortues visibles, donc il y a aussi des tortues dans les animaux, et ben elles vont vous forcer à dire avant de jouer. Donc il faudra que tu fasses semblant d'hésiter. Sauf que s'il y a deux tortues, et ben il faudra que tu dises deux fois le mot avant de dire ta réponse. Donc voilà, c'est vraiment du petit jeu d'ambiance, ouais. Parce que la moindre erreur d'annonce, d'hésitation, elle fait récupérer toutes les cartes. Comme le but, c'est d'être le premier à se débarrasser de ces cartes. On va essayer de pas en faire, mais du coup, c'est très simple d'accès et t'as vraiment des sensations entre deux pommes, trois pains et ta coche à bouc, en fait.
C'est
vraiment les deux que j'ai eu l'impression de rejouer.
C'est la gamme Mytho, Poker des cafards, toutes ces choses-là.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est la même gamme, en fait.
Eh ben, il faut pas manquer une sortie là qui arrive au mois de mai qui s'appelle Œuf pour œuf. Je sais pas si tu y as joué.
Non, j'ai pas vu. Je suis là.
Alors donc c'est pareil, petit jeu hein, dans la même gamme. C'est un peu le même principe hein, que le jeu que tu viens d'expliquer, c'est pour ça que j'en parle vite fait. C'est en gros, tu vas avoir des poules avec des œufs, et puis il va falloir que tu dises celle qui a le plus d'œufs. Sauf que tu dois dire moi, toi, vous, nous. Ça dépend.
Ah oui, donc oui, c'est
vrai.
Okay.
Oui, voilà. Et si tu te trompes, pareil, hein, tu ramasses. Mais il y a aussi des moments où il va y avoir une carte avec des chiffres. Donc là, tu dois plus dire ça, tu dois dire le nombre d'œufs. Et puis,
ah oui, ouais, c'est le même principe. Ouais.
Et s'il y a des œufs cassés, tu dis personne. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu le même principe. Et en cas d'égalité, tu dois appuyer sur l'œuf sur le plat pour dire voilà, l'égalité. Si celui qui est le dernier à appuyer, il ramasse les cartes. On est vraiment sur le même principe de jeu. Ça s'appelle donc œuf pour œuf et ça sort au mois de mai.
Ah bah oui, à tester. Mais j'aime bien les petits jeux comme ça d'ambiance, en fait. Parce que tu dis, tu peux y jouer avec tout le monde et ça passe toujours hyper bien, quoi.
Ah, et puis c'est pas évident parce que tu dis moi, alors, ah bah là maintenant c'est nous, là, ah bah là c'est toi, là c'est, ah bah c'est vous, là, c'est... Enfin, waouh, c'est...
Et puis alors... Ça devient de bazar.
Et sachant qu'ils ont une variante, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de répéter le même mot, donc tu dois dire pareil, si c'est moi. Tu vois,
oh la vache.
Franchement, c'est bien, on y a joué, on a fait pas mal de parties ce week-end, parce que mon fils, il adore ce jeu que j'ai récupéré à Cannes. Franchement, dans les petites boîtes, là, c'est vraiment sympa.
Ah, il faudra que j'essaye ça.
Alors maintenant, Morgane, c'est le moment de passer à tes trois coups de cœur du Festival des Jeux de Cannes.
Oui, alors j'ai un peu grugé parce que j'en ai quatre.
Ah bah non, tout le monde en a donné trois. Hein, donc,
Alors moi j'en ai quatre, mais trois et demi on va dire.
Bon, allez.
Mais non, mais c'est des jeux qui m'ont agréablement surprise et que j'ai vraiment hâte de découvrir en boutique.
Ouais.
Je commence avec le premier qui m'a vraiment frappé, c'est Astérix et compagnie.
Ouais.
Qui arrive chez Matago du coup début avril. Là ça a été vraiment la belle surprise du festival parce qu'en fait un jeu à licence, j'y vais toujours avec pas mal d'appréhension.
Oui, moi aussi.
Voilà, qui est juste une licence qui cache un jeu, ok, sans plus, hein, voilà, tu sais pas trop. Et là en fait on a vraiment une licence qui a été vraiment bien utilisée et les fans d'Astérix ils vont retrouver des clins d'œil hyper sympas.
D'accord.
Le but d'ailleurs c'est de réussir à réaliser les albums d'Astérix en les gagnant face à nos adversaires. Donc en fait on a une carte entre deux adversaires, enfin avec chaque voisin en fait. Et on a un côté romain, un autre gaulois, et en fonction de la couleur qui est de notre côté, on va jouer des cartes de cette couleur pour arriver à la valeur nécessaire pour remporter l'album.
D'accord.
Mais les cartes, elles ont des actions qui vont s'activer sur les autres joueurs, sur nous-mêmes. Donc on a vraiment un résultat bien dynamique, et on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que du coup, ça a été la belle surprise de voir qu'une licence était enfin bien utilisée dans un jeu comme ça, quoi.
Hâte de le découvrir, celui-là.
Ouais, celui-là, ouais, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Moi, enfin, on a fait une partie, on a réussi à y jouer sur le festival et vraiment, on s'est pris au jeu, on aurait dit trois enfants, quoi. C'était vraiment excellent. Deuxième chouchou de Cannes avec Toy Battle, que t'as pu essayer aussi.
Eh oui.
Qui est un jeu, du coup, pour deux joueurs façon Clash Royale. Il est peut-être sorti dans les coups de cœur des autres chroniqueurs cette semaine, parce qu'il avait pas mal buzzé.
Oui, il me semble, en tout cas, dans mes coups de cœur à moi, il est sorti.
Voilà, même des tiens, ouais, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais vraiment, ça joue vite, on a envie d'y retourner. Moi, j'ai surtout hâte, c'est de découvrir les plateaux. Je sais pas si t'avais pu les essayer, toi,
ouais,
depuis.
J'en ai essayé un deuxième, ouais. J'en ai essayé un.
Mais voilà, moi, le plateau Halloween, il me fait grave de l'œil. En fait, j'ai trop hâte d'y jouer. mais voilà, mais lui, c'est vraiment. Enfin, il a bien fait parler de lui à Cannes. Et je pense que ça va être un bon succès. Et en fait, faut pas s'arrêter à la couverture qui peut paraître jeu enfant.
Ah ouais, mais...
J'ai eu pas mal de retours. Ouais. Et des gens qui m'ont dit, oui, mais on dirait un jeu enfant. Non, non, mais allez-y, en fait, c'est vraiment pas... façon Clash Royale et c'est excellent.
Oui, voilà, c'est ça, façon Clash Royale. D'ailleurs, mon fils, il a dit, oh, mais ils ont copié sur Clash Royale.
Oui, mais tu te dis, ça n'existait pas.
Bah voilà.
C'est pareil, c'est, tu te dis le succès de l'application, et en fait, il n'y avait pas de jeu de plateau réellement Clash Royale, quoi.
Mais il a compris rapidement le jeu, hein, je peux te le dire.
Tu prends des raclés au passage.
Ah oui, ouais. C'est chaud.
Ça arrive, mais tu vas t'entraîner.
Le troisième,
c'est Panda Spin,
oui.
Qui arrive aussi prochainement. Je crois qu'il sort aujourd'hui.
Aujourd'hui,
la semaine prochaine, mais il arrive chez Matago. On avait déjà parlé ici du Gang of Four dans une de mes chroniques,
ouais.
Un vieux jeu. Là, on retrouve un système semblable de combinaisons de cartes à réaliser et donc à battre pour garder la main et se débarrasser de nos propres cartes.
Ouais.
Mais la subtilité vient du fait que les cartes, elles peuvent se retourner et donc s'améliorer. Donc une carte qui affiche une dame, par exemple, peut d'un coup devenir une carte qui en représente deux, voire plus. Donc elle sera plus puissante pour réaliser des combinaisons de cartes. Visuellement, c'est canon en plus. Hein, vraiment, ça m'a vraiment donné envie. On a fait un début de partie et j'avais vraiment hâte d'y rejouer parce que voilà, lui, c'est le Gang of Four, mais en mieux, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, et en gros, en plus, quand tu reprends tes cartes, c'est là que tu les retournes, quoi. Parce que sinon, celui qui a gagné, il défausse ses cartes. Mais toi, du coup, t'as un petit pouvoir en plus, puisque tu vas pouvoir retourner tes cartes qui vont te donner des meilleures combinaisons.
Mais du coup, c'est ça qui est bien, parce que ça rééquilibre, en fait.
Et puis,
c'est ça parce que t'as perdu que tu perds tout, quoi.
Enfin... Et puis le calcul de la fin aussi, celui qui gagne, il compte le nombre de cartes du perdant. Donc c'est celui qui a le plus de cartes. C'est...
Puis il est magnifique en plus, donc il m'a trop donné envie de bien jouer.
Très 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 bon.
Et j'ai mon dernier petit chouchou, mais c'est un jeu qui arrivera en fin d'année, donc il compte pas vraiment dans
les prochaines sorties. Parle pas. Non, je rigole.
Si, on s'en parlait quand même. c'est Miams qui arrive chez Kif Edition.
Oui.
Mais du coup, ça arrivera plus automne, octobre.
Je l'ai vu, mais j'ai pas joué.
Et du coup, nous, on a réussi à s'y poser pour y jouer. Quand tu arrives, tu as l'impression que c'est juste un Yams.
Oui.
Tu te dis, c'est des combinaisons de dés, c'est un Yams. Et en fait, c'est bien plus mieux que ça, du coup. Elle était pas très française, ma phrase, mais c'est pas grave.
on a compris que c'était plus qu'un Yams.
Voilà, c'est mieux qu'un Yams en tout cas. Mais tu dois réussir en fait des combinaisons de dés avec des fruits pour collecter des cœurs ensuite. Et en fait, à chaque tour, tu récupères une nouvelle carte. Et ces cartes, ça va t'ajouter des avantages supplémentaires. Donc tu vas commencer à comboter dans tous les sens, à récupérer de plus en plus de cœurs. Ça va monter vraiment en puissance. Et c'est vraiment le petit jeu complètement inattendu où j'y suis allée un peu sans savoir trop où j'allais, quoi. Donc on est ressorti, on y a joué qu'à deux, et c'est vrai que ces jeux-là, généralement, tu dis y a pas grand chose à faire, et en fait là tu récupères même des cœurs parce que ton adversaire il a fait telle action, donc ils ont même réussi à mettre un petit côté interaction dans un Roll and White, ce qui est assez rare. Et du coup, c'est un jeu, j'ai pas précisé, de Jules Messot, illustré par Ben Renault.
Ouais, Ben Renault qui a illustré notamment Présage, qui sort cette semaine aussi.
Oui.
Présage qui est très bon et qui faisait partie de mes coups de cœur.
Et que j'ai pas encore joué.
Ah bah voilà, c'est pour ça.
Non, et alors, il faut être 4.
Oui, c'est vrai. C'est...
Mais ça va venir, c'est prévu. Hein, mais...
Et alors, y en a un quand même, jeu de tout le monde a parlé, qui n'est pas dans tes coups de cœur, Morgane.
Là, j'ai peur, j'en ai oublié.
C'est Tech Time.
Oui, mais Tech Time, j'y ai pas joué. Alors au pitch, il m'a grave donné envie, pas joué.
Ah oui, donc du coup, je comprends que tu puisses pas le mettre dans tes coups de cœur.
Ouais, mais honnêtement, à ce que j'ai entendu, il finira sûrement dans les jeux que j'ai aimé cette année, je pense.
Ah bah oui.
J'ai très très hâte, par contre, le côté coop et tout, et en fait, les tables, elles étaient tout le temps pleines à craquer.
Bah oui.
Donc on n'a pas eu l'occasion d'y jouer, mais celui-là, il est clairement dans le viseur.
Très bien, et merci beaucoup Morgane, on se retrouve pas vendredi prochain, non, on se retrouve lundi, hein.
Lundi, ouais.
Puisque désormais on va te retrouver le lundi pour soirée jeu, en plus ça sera beaucoup plus logique puisque c'est les jeux que t'as joué le week-end, donc
c'est ça.
Ça sera encore plus dans la mémoire, j'ai envie de te dire.
C'est parfait.
Merci beaucoup Morgane et à lundi.
Avec plaisir.
Salut.
Salut.
Voilà les amis, c'est ludique, c'est terminé. Nous, on se retrouve dès lundi. Passez un excellent week-end. Salut.